Merci infiniment, Patrick. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Patrick Boucheron pour cette effrayante invitation à un séminaire d'histoire. Moi qui ne suis absolument pas historien, ayant déjà beaucoup de mal à être un peu philosophe. Nous allons donc commencer cet exercice de passation et de circulation d'une parole. Je passerai tout à l'heure la parole aux invités de ce jour, Stéphane Van Damme, Michael Fessel, je les présenterai tout à l'heure, mais puisque les disciplines aujourd'hui représentées au chevet de notre problème commun, problème des effets de la modernité, puisque ces disciplines sont déjà plusieurs, puisqu'il y a ici des philosophes et des historiens, je vous propose de ne pas nous arrêter en si bon chemin et d'introduire, entre philosophie et l'histoire, un peu de littérature. Repartir justement du texte que tu citais il y a un instant, cette Histoire de la littérature récente, tome 1, où l'écrivain Olivier Cadio entreprend une enquête sur la disparition avérée, déplorée, annoncée de la littérature, disparition de la littérature, thème moderne s'il en est, et entreprend de le faire selon les principes de l'école des annales, c'est-à-dire celui, je cite, d'une histoire-problème qui questionne le passé et remet constamment en question ses propres postulats et méthodes afin de ne pas être en reste sur les autres sciences et sur l'histoire du monde. Bien, voilà un beau projet. Fin de citation. Il note rapidement que ce diagnostic pessimiste, la littérature disparaît, va de pair avec un trouble. Si l'on ne sait plus ce qu'est la littérature, ni s'il y a encore littérature, c'est que l'on ne sait pas vraiment non plus dire depuis quand. Je cite, « Un cœur sinistre beugle au fond de la Seine, c'est fini, on fait partie de la chorale. » Se rejoignent sur la carte deux camps opposés qui disent la même chose, ceux qui pleurent la littérature d'avant depuis toujours et ceux qui réalisent que la littérature d'après est déjà devenue celle d'avant, etc. Ce n'est pas simple. Quelle littérature a disparu? La classique ou la moderne? Certains regrettent encore Balzac, d'autres Robe Grillet, qui lui-même ne regrettait pas Balzac. C'est compliqué à suivre. L'histoire fait des spirales en plusieurs dimensions, sa visse et sa dévisse. Il faudrait faire une histoire en volume. Un peu plus loin, en réaction à cet emmêlement des catégories historiques, c'est-à-dire au fait qu'on déplore d'autant plus durement la disparition de la littérature qu'on ne sait pas assigner les bornes, les limites de cette disparition, Cadio propose d'introduire ce qu'on pourrait appeler une catégorie anti-historique, le récent. Je cite, « Il ne vous est jamais rien arrivé, pas de drame, respirez, plus de passé, plus de récent. Le récent, c'est périssable, regardez, auriez-vous envie de manger du saumon récent ?» Voilà donc un écrivain qui, pour tenter d'échapper au labyrinthe des périodisations historiques, de l'assignation, du classique, du moderne, convoque une catégorie strictement indicielle, le récent, substitution suffisamment importante pour qu'il en fasse le titre de son livre, mais qui soulève immédiatement le paradoxe d'une histoire qui tenterait de ne pas périodiser, qui tenterait de contourner l'exigence d'une périodisation indépendante des coordonnées de son auteur. Projet immédiatement contredit ou contesté par le sous-titre du livre qui indique une somme, tome 1. Comme si, tout se passe comme si, tout à la fois, la notion de modernité était devenue impraticable, mais comme si, pour autant, il ne suffisait pas de décider de s'en passer pour désamorcer les difficultés qu'elle induit. Encore, comme s'il ne suffisait pas de se vouloir anti-moderne ou post-moderne ou contemporain ou amoderne pour se dépêtrer de la tâche d'avoir à découper l'histoire, tâche qui est peut-être intimement liée à cette catégorie même de modernité. Peut-être pour cela que ce morceau de littérature m'en a rappelé un autre, le dialogue très célèbre que l'on trouve dans « Chose vue » entre le député Victor Hugo et son collègue Victor Cousin, l'un disant « La décadence de la langue française a commencé en 1789 » et Hugo lui répondant « À quelle heure, s'il vous plaît ?» Ce qu'on appellerait aujourd'hui « problème de granularité dans la périodisation historique ». Il ne suffit sans doute pas de se vouloir anti-moderne pour cesser de périodiser. Alors, les quelques remarques que je voudrais vous présenter aujourd'hui ne feront peut-être que déplier quelques-uns des tours de ces deux apologues littéraires. Qu'en est-il de la possibilité de périodiser l'histoire dès lors qu'on appartient soi-même au cœur des pleureuses, comme dirait Cadio? Qu'en est-il du jeu de permutation entre les qualifications de classique et de moderne? Qu'en est-il de la tentation et de la difficulté de se défaire de l'étiquette de modernité, tout en conservant quelque chose comme un repérage, comme un balisage de l'histoire? Ma proposition, en effet, c'est de consacrer cette première séance à examiner deux séries de questions, dont il va d'abord de soi qu'elles sont, chacune de leur côté, parfaitement impraticables, infiniment trop vastes pour être examinées avec succès. Première question, la question du sens ou des sens qu'il est possible de donner au concept de modernité, dont Patrick Boucheron a fait le fil rouge de ce séminaire, les effets de la modernité, je cite le titre, les effets de la modernité, expérience historiographique, ce qui suggère bien qu'il s'agit ici de statuer non seulement sur les effets des phénomènes modernes, mais aussi bien sur les effets du concept de modernité sur la compréhension de l'histoire, de sorte que modernité s'entendrait ici à la fois avec et sans guillemets. Quel sens au concept de modernité? Premier problème, trop vaste. Deuxième problème, trop vaste, la question des conditions, des modalités, des enjeux, de l'acte de périodiser, d'assigner des limites à une séquence historique et de déterminer le type de cette limitation. Qu'en est-il de ce geste consistant à lier l'intelligence de l'histoire à la détermination d'étapes, de stades, de seuils significatifs? Ou encore, pour reprendre le titre d'un beau petit livre de Jacques Le Goff, faut-il vraiment découper l'histoire en tranches? Et qu'en est-il de la légitimité du type de découpe dont ces tranches procèdent? Ces deux questions étant, chacune pour elle-même, beaucoup trop vastes, pour avoir une chance de les déterminer, je voudrais vous proposer de les restreindre, de trois façons. Première manière, les examiner ensemble, dans leur intersection. Non seulement considérer que la périodisation pose des problèmes particuliers lorsqu'elle s'applique à cette période que nous appelons moderne, hypothèse suggérée par l'intitulé même de la chaire de Patrick Boucheron, de l'enjambement qu'il s'agit d'opérer entre le XIIIe et le XVIe siècle, mais en nous demandant aussi à rebours si et comment le concept de modernité implique, prescrit un type de périodisation particulier. Jürgen Habermas, dans son discours philosophique de la modernité, remarque, je cite, « L'articulation encore usitée aujourd'hui, par exemple pour désigner les chaires d'histoire, en temps moderne, Moyen-Âge et Antiquité, ou histoire moderne, médiévale et ancienne, ne pouvait prendre forme qu'à partir du moment où les termes de « temps nouveau » ou de « temps moderne » avaient perdu leur signification purement chronologique pour désigner une période radicalement nouvelle par rapport à celle qui la précédait. Le concept profane de temps moderne exprime la conviction que l'avenir a déjà commencé. Il désigne l'époque qui vient, l'époque qui vit en fonction de l'avenir et s'est ouverte au nouveau qui vient. Habermas commente ici classiquement Koselleck. Il y aura donc un lien, une intersection entre nos deux problèmes. Deuxième remarque, souligner la manière dont le concept de modernité pèse sur les choix de périodisation, souligner qu'il enveloppe une dimension normative à cet égard. Cela pointe vers la manière dont le lien entre modernité et périodisation est aussi un carrefour entre la recherche historique et la réflexion philosophique. La philosophie entend dans le mot de modernité non seulement un ensemble de processus qu'on peut décrire objectivement, mais une modalité de la conscience historique, une certaine façon pour les temps nouveaux de se comprendre eux-mêmes, de définir ce qui les distingue de la totalité du passé, de se rapporter au passé, de chercher en eux-mêmes les normes qui puissent fonder leur prétention au savoir, à l'autonomie, etc. Autant dire que le concept de modernité est l'un des leviers privilégiés par lesquels, classiquement, la philosophie a investi l'histoire, s'est autorisée à se faire philosophie de l'histoire, et du même coup, à conférer une signification philosophique aux notions par lesquelles l'histoire classe, découpe, différencie, séquence et période. Je cite encore Habermas, en même temps que les expressions « temps moderne » ou « temps nouveau », le XVIIIe siècle forge ou infléchit des concepts dans un sens qu'ils ont encore aujourd'hui, tels que ceux que de « révolution », « progrès », « émancipation », « évolution », « crise », qui ont pour objet de souligner le mouvement. Bien entendu, cela ne veut pas dire que tout seuil historique, sitôt philosophisé, sitôt saisi par un philosophe, devienne forcément téléologique ou hegélien, mais de la coupure épistémologique chez Bachelard aux discontinuités chez Canguilhem ou chez Foucault, il y a un dialogue privilégié entre ces instruments, entre ces scalpels de l'historien que sont les différents types de seuils et la charge philosophique qu'il va s'agir de leur conférer. Troisième manière de restreindre notre problème, je voudrais vous proposer de considérer cette affaire sous l'angle de sa contraposée. Je veux dire de regarder comment la critique de la modernité, non pas tant comment la modernité implique un certain genre de périodisation, mais comment la critique de la modernité entraîne, ou non, et dans quelle mesure, un remaniement profond de la périodisation historique, une redéfinition des notions, des gestes par lesquels on séquence l'histoire. L'échange entre Victor Hugo et Cousin le montrait assez. Ce n'est pas parce qu'on est contre la modernité qu'on cesse d'avoir une attitude naïve à l'égard des découpes historiques. Autrement dit, ma question serait de savoir s'il est possible de se débarrasser entièrement des présupposés que la notion de modernité transportait avec elle. Suffit-il de vouloir conjurer la modernité pour s'en défaire? Si, comme j'en ai rappelé l'hypothèse tout à l'heure, la notion de modernité désigne davantage qu'une période parmi d'autres, mais une période qui enjoint à découper les autres, à déterminer, à classifier les autres, ou comme dirait Heidegger, une époque des conceptions du monde. Alors, une histoire non moderne, radicalement non moderne des cinq derniers siècles, est-elle seulement possible? Pour introduire à ces questions, j'aimerais vous proposer d'examiner rapidement la façon dont elles se présentent dans l'œuvre de Michel Foucault. L'intérêt de Foucault, pour ce qui nous concerne, tient, à mon avis, à trois traits. Premièrement, c'est le plus évident, Foucault entend produire ce qu'il appelle des fragments philosophiques dans des chantiers historiques, même s'il s'est exposé par là à être trop philosophe pour les historiens et trop historien pour les philosophes. Or, ce dialogue que Foucault entend établir entre la philosophie et l'histoire consiste pour une large part à interroger les ambitions normatives de la modernité. On rassemble d'habitude sous le vocable de modernité. Si on appelle modernité une triple aspiration à l'objectivité, à l'émancipation individuelle et collective et à la subjectivité, alors l'enquête de Foucault est bien une enquête sur la modernité de part en part, une enquête menée à partir de l'analyse de séquences historiques précises, le réaménagement des sciences du langage, de la vie et de la richesse entre le XVIIIe et le XIXe siècle, les transformations de la pénalité, le développement des arts de gouverner, etc. Première remarque. Inversement, Foucault s'efforce de tirer dans un certain nombre de textes les conséquences philosophiques de la transformation des méthodes des historiens. Voici donc un philosophe qui s'occupe précisément de ce qui nous préoccupe. D'autre part, ce qui est intéressant aussi chez Foucault, deuxième raison de le convoquer, c'est le fait que cette inquiétude vis-à-vis de la modernité ou cette façon d'inquiéter la modernité, d'en défaire les évidences, d'en écailler les certitudes, c'est un mot de Foucault, cette façon-là de s'attaquer au moderne, au tableau moderne, se revendique ultimement d'une attitude de modernité que Foucault relie, je reviendrai sur ces textes tout à l'heure, dans le « Qu'est-ce que les Lumières » de Kant, à travers l'interprétation kantienne de l'Aufklärung, la référence à Baudelaire, au peintre de la vie moderne chez Baudelaire, etc. Comme si il n'était possible de se défaire du moderne qu'en relançant, d'une certaine façon, l'exigence que la modernité elle-même pose, tout le problème étant de savoir ce qui se trouve par là précisément réintroduit. Troisièmement, c'est à mon avis intéressant pour la discussion, la troisième raison de s'intéresser à Foucault dans notre contexte, c'est que ce sera fait. Je veux dire par là que le débat que Foucault mène à cet égard est un débat profondément daté et dont il convient de mesurer la date, débat daté avec un certain état de l'art historiographique. Le débat sur l'histoire et la nouvelle histoire est l'un des rares champs dans lesquels Foucault nomme et désigne explicitement ses interlocuteurs. Je vous renvoie ici à la part critique de la dernière édition de l'Archéologie du savoir par Martin Rueff. On voit bien que Foucault vise pour une fois des personnes précises et qui ne sont pas difficiles à décrypter. Daté encore, je ne sais pas si j'aurai le temps de m'y arrêter, en ce que le débat sur la modernité au début des années 1980 est pris dans un échange avec Jürgen Habermas avec Jean-François Lyotard autour du moderne et du postmoderne. Bref, il est intéressant de regarder ce que Foucault dit pour faire mesurer l'écart, et j'espère que ce sera l'un des objets de notre échange, pour mesurer l'écart avec l'état contemporain du dialogue entre philosophie et histoire sur ces sujets. J'ai suffisamment introduit, voyons ce qu'il en est, décrivons un peu l'archive. Je veux dire ce que Foucault dit et fait du lien entre le concept de modernité et l'exercice de la périodisation historique. Que fait-il ? S'agissant de l'utilisation de la catégorie même de moderne chez Foucault, on peut faire plusieurs remarques. La première nous embarrasse tout à fait, hein, puisqu'il apparaît rapidement, immédiatement au lecteur, que Foucault fait du mot de modernité un usage parfaitement décalé par rapport à son utilisation historiographique standard. La modernité, chez Foucault, c'est cette période qui s'ouvre à la fin du XVIIIe siècle, étant entendu que la période qui précède est qualifiée chez lui d'âge classique, dans une succession Moyen-Âge, Renaissance, âge classique, modernité, qu'on va retrouver de l'histoire de la folie aux mots et les choses, et qui s'estompe progressivement, assez progressivement, dans son discours, l'enquête demeurant longtemps, jusqu'à 1978 à peu près, centré sur le XVIIIe siècle. Foucault est profondément un XVIIIe-iste. L'analyse de ses fiches de lecture le montre tout à fait. En ce sens, alors il faudrait s'interroger ici sur le privilège donné par Foucault à cette catégorie de classique, ce qui, à mon sens, indique à la fois le centrage de son corpus sur le champ français, mais aussi l'importance, en tout cas dans ses premiers travaux, des catégories esthétiques. Au fond, l'âge classique, hein, c'est cet âge que le classicisme traduit dans l'ordre de la littérature et des arts, et on sait combien dans l'histoire de la folie cette prégnance du modèle, du paradigme artistique est tout à fait centrale, y compris pour décrire les transformations de l'assistance, de la science, du fonctionnement de l'État, etc. On a une découpage entre classique et moderne qui perdure assez longtemps, qui toutefois apparaît rapidement, ce serait une deuxième remarque, comme une fausse symétrie. Fausse symétrie parce que, d'une part, on remarque que les mots de moderne et de modernité, par opposition, s'ils fonctionnent régulièrement, à plusieurs reprises, par opposition au classique, sont en réalité assez rares. On compte par exemple dans l'index des 10 et écrits, moins de 10 occurrences des mots moderne et modernité, dont la moitié sont directement liées au commentaire du texte de Kant à la toute fin de l'œuvre. Foucault ne parle pas de modernité très souvent. Lorsqu'il en parle, il en parle négativement, ou plutôt dans une formule, dans un type d'articulation rhétorique qui est toujours, enfin, qui est très souvent le même. Je cite, par exemple, « Le seuil de notre modernité n'est pas au moment où l'on a voulu appliquer à l'étude de l'homme des méthodes objectives, mais bien le jour où s'est constitué un doublet empirico-transcendantal. La nuit du fou moderne, ce n'est plus la nuit onirique, etc. Dans le champ théorique moderne, ce qu'on se plaît à inventer, ce ne sont point des systèmes démontrables, mais des disciplines. » Et on voit bien que dans chacun de ces cas, le but de l'énoncé est de requalifier la modernité, mais l'effet rhétorique de l'énoncé est au fond de disqualifier le mot de modernité lui-même. Modernité, est-ce bien de cela qu'il s'agit ? Pas vraiment. Et Foucault va se saisir, pour mieux dire ce qu'il peine visiblement à dire par ce vocable, de tout un ensemble de périphrases très régulières. Je cite « Un temps dont nous ne sommes pas encore sortis »,« L'ordre sur le fond duquel nous pensons »,« Cette épistémé qui sert encore de sol positif à notre savoir », etc. La folie où s'abîme l'œuvre, c'est l'espace de notre travail. Ou encore, dans les mots et les choses, le seuil du classicisme à la modernité, mais peu importe les mots eux-mêmes, disons de notre préhistoire à ce qui nous est encore contemporain. Donc, comme ça, une manière de tenir à distance, j'essaierai de l'expliquer tout à l'heure, le mot de modernité, d'abord de situer la modernité dans le contemporain, et ensuite de contourner, d'entourer, de jouer à cache-cache, avec la qualification même de ce contemporain, là où, par contraste, l'âge classique demeure assez longtemps un objet stable et parfaitement immobile. S'agissant maintenant, je continue à décrire l'archive, S'agissant maintenant de ce que Foucault dit de sa propre pratique à cet égard, de la façon dont il décrit ses manières, ses procédures historiographiques, situons rapidement les textes. Deux grands textes. D'une part, la réponse au cercle d'épistémologie, parue en 1968 dans les Cahiers pour l'analyse et reprise dans l'ouverture de l'archéologie du savoir. D'autre part, en 1983, la lecture, j'en parlais, du Qu'est-ce que les Lumières de Kant, lecture dont nous possédons aujourd'hui au moins trois versions, une version américaine, une version française, celle qu'on trouve dans les cours du Collège de France, qui diffère assez notablement en réalité. Bon. Il faudrait ajouter un certain nombre d'autres textes, en particulier les textes consacrés à Georges Canguilhem, la préface à l'édition américaine du Normal et le Pathologique, tout particulièrement. Bon, je m'arrête là sur la description du corpus. Mon but est simplement de faire saillir les éléments qui montrent que chez Foucault, la réflexion sur la périodisation en histoire est philosophiquement chargée. Pour le dire autrement, Foucault peut bien opposer régulièrement la modestie du travail de l'historien aux thèses surplombantes des philosophes. Il y a en réalité chez lui des thèses philosophiquement déterminées sur la manière de faire de l'histoire. Et c'est au fond là, bien davantage que dans ce qu'il dit de la culture, de la subjectivité, du pouvoir, etc., qu'une position philosophique se laisse repérer. Question, cette position philosophique sur la bonne manière de découper l'histoire est-elle continue ? Y a-t-il une continuité ? La question qu'on pourrait se poser, si on remarque que les textes de balise que je viens de citer sont distants d'une quinzaine d'années, entre l'archéologie du savoir et Qu'est-ce que les Lumières ? Toute la question serait de savoir si la position de Foucault à cet égard est constante, s'il y a chez lui une continuité dans ce manifeste pour une histoire découpée, pour une histoire à la découpe, pour une histoire du discontinu. En apparence, on pourrait dire que oui. Il y a, chez Foucault, dès 1969, l'affirmation de ce que la pensée de l'histoire doit se faire fondamentalement, pensée des ruptures, c'est-à-dire une pensée qui s'efforce de les assigner, de les situer au niveau ou sur le plan qui leur revient, de spécifier à quel type de discontinuité on a exactement affaire. Faire de l'histoire, c'est remarquer, je cite Foucault, qu'on ne parle pas de la même discontinuité quand on décrit un seuil épistémologique, le rebroussement d'une courbe de population ou la substitution d'une technique à une autre. De l'autre côté, à l'autre bout de cette trajectoire, l'affirmation de ce que l'Aufklärung, la modernité, constitue une rupture dans la pensée. Rupture dont l'interpellation, qui interpelle nous autres contemporains, qui nous interpelle, qui nous exige de nous, qui nous commet à ressaisir le présent comme rupture. Kant ne cherche pas à comprendre, écrit Foucault, le présent à partir d'une totalité ou d'un achèvement futur, il cherche une différence. Quelle différence aujourd'hui fait-il par rapport à hier ? Et on se dit, les choses sont assez simples, Foucault exhibe au début des années 80, à la fin de sa vie, les conditions historiques, modernes, d'une pratique historienne dont il avait fixé les cadres à la fin des années 60. L'archéologie, comme exercice de découpe, de multiplication des découpes, serait la traduction, la prise en compte de la pensée contemporaine, d'une attitude de modernité, consistant précisément à assigner le présent par différence et comme différence. Ce, quand bien même la modernité est distinguée d'une époque, hein, Foucault dit, je sais bien qu'on parle souvent de la modernité comme d'une époque, mais pour moi elle est davantage une attitude, etc. La position de Foucault est-elle constante à cet égard ? À première vue, oui, en réalité c'est un peu plus compliqué. Cette belle cohérence entre le Foucault archéologue et le Foucault éthicien du début des années 1980, cette belle cohérence se heurte en réalité à deux grincements. Premier grincement, en 1969, s'il s'agit d'affirmer une histoire du discontinu, s'il s'agit d'affirmer qu'un dialogue est possible entre philosophie et histoire à partir et sur la base d'une périodisation rigoureuse et d'une démultiplication de la périodisation historique, c'est contre toute forme de téléologie. Foucault dit, s'il importe de pratiquer l'histoire ainsi, c'est que cette histoire nous libère vis-à-vis de l'illusion selon laquelle on pourrait indexer le temps du monde et le temps des sociétés à l'activité d'une conscience et d'un sujet, double récusation, de la phénoménologie d'une part, du marxisme d'autre part. L'histoire du discontinu est une histoire déliée de tout horizon, dit Foucault, historico-transcendantal. Donc, qu'est-ce que les Lumières ? Les choses sont un peu petit plus difficiles. Bien sûr, Foucault se méfie des grandes généralités. Je cite, « Ces enquêtes historico-critiques sont bien particulières, elles portent toujours sur un matériel, une époque, un corps de pratique, des discours déterminés. Mais, au moins à l'échelle des sociétés occidentales dont nous dérivons, elles ont leur généralité, en ce sens que jusqu'à nous, elles ont été récurrentes, ainsi le problème des rapports entre raison et folie, maladie et santé, crime et loi, etc. » Il faut ici noter l'introduction de ce vocable, les sociétés occidentales, qui fait partie des deux notions chez Foucault, qui désigne toujours un impensé préalable. Lorsque Foucault parle de notre culture, lorsqu'il parle de nos sociétés occidentales, on a là affaire à une notion dont Foucault, visiblement, tente de se passer le plus souvent possible, mais qu'il ne peut pas éviter absolument. Il semble donc bien que la relance du programme moderne telle qu'elle intervient au début des années 80, ce programme de rupture, soit en un sens un programme de réconciliation avec une certaine forme de généralité, une certaine forme d'horizon philosophique. Premier grincement. Deuxième grincement, le Foucault de 1983 ne pratique plus la périodisation exactement de la même manière. De la discontinuité à la continuité, quelque chose a pivoté. Si vous prenez l'ouverture de Naissance de la clinique, ou celle de Surveiller et punir, vous constatez que la mise en récit de l'histoire obéit à un schéma à peu près identique. Il s'agit de rapprocher deux archives, aussi proches que possible chronologiquement, et aussi éloignées que possible conceptuellement. Par exemple, la description d'une pratique médicale à la fin du XVIIIe siècle, et la description d'une dissection du cerveau au début du XIXe. Et ce sont là deux mondes parfaitement hétérogènes l'un à l'autre. Ou encore, le supplice de Damien au XVIIIe siècle et le règlement d'une maison de correction au début du XIXe. Ce sont là des archives chronologiquement proches et absolument incompossibles ou incomparables. Foucault procède en réalité dans ses textes exactement comme il l'a décrit chez l'écrivain Raymond Roussel. Chez Raymond Roussel, cet écrivain, on se prenait deux énoncés extrêmement proches, les traits du blanc sur les bandes du vieux billard, les traits du blanc sur les bandes du vieux pillard, et à une lettre près, on inventait une histoire extraordinaire qui s'étalait entre ces deux polarités. Un maximum d'effets pour un minimum d'écart. Foucault procède, c'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles il revendique un statut fictionnel pour ses textes, procède de la même manière. C'est donc la discontinuité qui vient enclencher la problématisation historique. Dans l'usage des plaisirs, en 1984, la stratégie est exactement inverse. Foucault va en effet montrer, cette fois à propos de l'Antiquité, que les prescriptions morales à l'austérité sexuelle, la condamnation de la masculinité efféminée, l'appel à la fidélité, etc., que ces thématiques-là sont grosso modo les mêmes entre la Grèce antique et le christianisme primitif. Que si donc il y a un mouvement historique, c'est ailleurs qu'il faut le chercher. Cette fois, c'est la continuité qui fait problème, c'est la continuité qui indique, qui invite à interroger autrement l'histoire. Foucault de 1983, ce Foucault qui appelle à une nouvelle attitude de modernité, n'est plus exactement le Foucault de 1969. Comment alors décrire ce qui se passe au juste chez Foucault avec la notion de modernité? Pour ce faire, laissons de côté les questions de mots, puisque on l'a vu, Foucault emploie relativement peu le mot de modernité. Il me semble que dans l'histoire de la folie, au début de la deuxième partie, Foucault effectue à propos de la notion de folie un travail d'analyse assez intéressant en expliquant qu'il y a quatre consciences de la folie. Conscience critique de la folie, conscience pratique de la folie, une conscience énonciative, une conscience analytique. Il me semble que nous pourrions effectuer le même genre d'analyse à propos de la notion de modernité. Je vous propose d'analyser, de considérer avec moi qu'on pourrait distinguer quatre consciences de la modernité qu'on pourrait définir ainsi. Il y a une conscience objective de la modernité. Modernité entendue comme période susceptible d'être identifiée, délimitée, décrite de l'extérieur. Il y a une conscience ou un usage indexical, déictique de la notion. La modernité, c'est cette période qui est la plus proche de nous. Et position, du coup, inséparable de la position du locuteur. C'est une autre manière de parler de la modernité. C'est plus moderne, c'est arrivé plus tard. Il y a un usage normatif de la notion de modernité. Le caractère moderne d'un phénomène exprimant alors sa relation à une norme de rationalité qui marque sa valeur, de manière différenciée. Il y a enfin, à mon sens, un usage relationnel ou réflexif de la notion de modernité lorsque la modernité exprime la ressemblance ou la reconnaissance que nous pouvons avoir vis-à-vis d'un phénomène sans préjuger d'ailleurs que ce phénomène est meilleur ou pire que d'autres, mais nous nous y reconnaissons. Un volume, voici déjà quelques années, s'intitulait à propos des sophistes nos Grecs et leurs modernes. C'est de ce type d'identité ou de réflexion qu'il s'agissait alors. Disons, pour le jeu de l'assonance, puis après tout, ça rime avec Collège de France, que la modernité est tantôt une séquence, tantôt une récence, tantôt une exigence et tantôt une forme de reconnaissance. Il me semble que l'attitude de Foucault va consister, la stratégie de Foucault va consister à jouer avec ces quatre aspects de la notion de modernité. Il me semble que l'on pourrait décrire la trajectoire philosophique de Michel Foucault comme une certaine manière de combiner ou de décombiner ces quatre aspects de la notion de modernité. Et que Foucault ne les combine pas exactement, ces quatre dimensions de la notion de modernité, en 1969, comme il le fait en 1983. Essayons de décrire. Il y aurait, disons, deux lignes historiographiques chez Foucault. La première, c'est cette ligne qui consiste, et dont l'archéologie du savoir est le témoignage premier, à défaire le moderne. Prenons pour exemple de cette stratégie un dialogue assez amusant entre Jacques-Alain Miller et Michel Foucault à l'occasion de la sortie de La volonté de savoir en 1977 dans un texte, dans un entretien intitulé Le jeu de Michel Foucault. L'un et l'autre commentent le type d'histoire, le type de scansion que Foucault va introduire dans son histoire de la sexualité. Et voici ce que dit Miller. Je vois bien que tu cherches quels opérateurs vont te permettre d'effacer la coupure qu'on place à Freud. Tu t'en souviens, à l'époque où Althusser faisait valoir la coupure marxiste, tu étais déjà arrivé avec ta gomme. Et maintenant, c'est Freud qui va y passer. Enfin, je crois que c'est un objectif. Tu crois vraiment que tu vas réussir à effacer la coupure entre Tertullien et Freud ? Foucault. Je dirais que pour moi, l'histoire des coupures et des non-coupures est toujours à la fois un point de départ et un truc très relatif. Dans les mots et les choses, je partais de différences très manifestes, de transformation des sciences empiriques vers la fin du XIXe siècle, etc. etc. Et Foucault explique que le seul fait que j'ai joué ce jeu-là exclut sans doute pour moi que Freud apparaisse comme la coupure radicale à partir de quoi tout le reste doit être repensé. Ce que dit Foucault ici de son attitude vis-à-vis de Freud est assez intéressant, parce que Freud, c'est quoi ? C'est la figure moderne par excellence. C'est la figure moderne par excellence, c'est la figure qui condense, au fond, les quatre aspects dont nous avons parlé tout à l'heure. Freud, c'est cette rupture chronologique radicale qui coupe l'histoire de la psychiatrie en deux. Freud, c'est cet événement récent, mais qui se donne en même temps comme une origine à l'égard de la psychanalyse qui va le suivre, d'autant plus avec la psychanalyse lacanienne. Freud, c'est encore une norme au regard de laquelle les évolutions ultérieures de la psychiatrie ou de la psychanalyse vont se trouver pensées. Freud, enfin, c'est une figure dans laquelle les interlocuteurs de Foucault dans cet entretien se reconnaissent éminemment. Je crois qu'à cet égard, l'archéologie consiste à défaire, à dénouer cette façon-là de périodiser l'histoire en reconnaissant dans le même point un type de norme, un marqueur chronologique, une indication de récence et un type de reconnaissance. Qu'est-ce que Foucault va faire ? Premièrement, il va séquencer autrement. Effectivement, le principal, la principale opération que Foucault revendique en 1969, c'est de faire apparaître d'autres ruptures, d'autres niveaux de rupture, d'autres types de coupures. Par exemple, d'opposer à la notion de seuil ou de coupure épistémologique les notions de seuil de positivité, seuil d'épistémologisation, seuil de scientificité, seuil de formalisation. Il n'est pas exclu, il faudra en parler tout à l'heure, que ce faisant, en multipliant ainsi les seuils, on multiplie d'autant les téléologies. Pas sûr qu'on réduise la téléologie en multipliant la notion de seuil. Mais passons. Je crois que donc la première attitude de Foucault va consister à déplacer le curseur et à multiplier les curseurs de telle manière que telle coupure n'apparaisse plus comme centrale ou comme définitive. Deuxième stratégie, il va s'agir pour Foucault de jouer le récent contre l'originaire. Autrement dit, et c'est l'une des ambitions constantes de l'archéologie, de faire apparaître que ce que nous croyions éternel, ce que nous croyions intemporel, ce que nous croyons naturel, est en fait, et c'est son mot, récent. L'homme est une invention récente, si cette formule des mots et les choses est restée une sorte de devise de la pensée foucauldienne, je crois que ce n'est pas tant à cause de l'attaque vis-à-vis de l'homme que de la façon dont la valeur de récence se voit comme déboîtée de toute référence à une nature. Ce qui est là récent, l'apparition de l'homme, ce n'est pas l'apparition récente d'une réalité ancienne, c'est du récent tout cru. Le désir dont chacun est saisi d'exprimer l'intimité de sa sexualité, ça n'est pas un désir trop longtemps réfréné ou refoulé, c'est l'apparition récente d'une hypothèse répressive, dit la volonté de savoir. Donc, découper autrement, séquencer autrement, valoriser la récence. Troisième stratégie, et au fond c'est l'objectif poursuivi par Foucault à cette époque, introduire un trouble dans la reconnaissance. Faire en sorte que l'on ne s'y reconnaisse plus, que le rapport d'identification des contemporains à cette période qu'ils croyaient connaître et en laquelle ils croyaient se reconnaître ne soit plus possible. De ce point de vue, lorsque Foucault juxtapose deux archives, l'archive médicale, le supplice de Damiens, disons, et la règlement de maison de correction, l'objectif est que le règlement de maison de correction nous apparaisse aussi étrange et aussi étranger que la description analytique et rationnelle du supplice qui l'a précédé. Il y a chez Foucault une manière et une volonté d'introduire un trouble radical dans la reconnaissance et c'est l'effet cherché de l'archéologie. C'est aussi pourquoi Foucault peut convoquer le rire, rire de Borges qui ouvre les mots et les choses, ou le rire au début du cours intitulé « Les anormaux à l'égard de l'expertise psychiatrique », le rire est une façon d'affirmer que nous ne nous y reconnaissons plus. Ça, c'est ce que fait Foucault en 1969. C'est au fond cette manière de défaire le moderne en décomposant ces éléments constitutifs est ce qui caractérise l'archéologie comme contre-modernité. Qu'est-ce qui se passe alors en 1983, lorsque Foucault reprend à son compte l'attitude de modernité, la même où l'on aurait pu croire que de modernité n'est définitivement plus question. Qu'est-ce qui vient, à ce moment-là, normer le jeu archéologique ? Qu'est-ce qui définit cette autre compréhension de la modernité ? Il me semble là aussi que Foucault va jouer avec les quatre composantes du concept, je les rappelle, désignation d'une séquence objective, l'index d'une proximité temporelle, la référence à une norme ou à un corps de normes définissant ce qui vaut, et l'expression d'une identification et d'une familiarité. Il me semble que l'interprétation que Foucault propose de l'Aufklärung revient à apparier deux à deux ces dimensions en les maintenant rigoureusement disjointes. Je m'explique. Pas très simple, il faudrait un dessin. On va se passer de dessin. Qu'est-ce que l'attitude de modernité à laquelle Foucault appelle dans le texte « Qu'est-ce que les Lumières ?» Il s'agit, dit-il, d'une enquête historique à travers les événements qui nous ont amenés à nous constituer, à nous reconnaître comme sujet de ce que nous disons, pensons, faisons. Comment nous sommes-nous constitués comme sujet de notre savoir? Comment nous sommes-nous constitués comme sujet qui exerce ou subissent les relations de pouvoir, etc. Il s'agit en fait, ce à quoi Foucault appelle, c'est à conjoindre les dimensions objectives et réflexives de la modernité, tout en vidant cette synthèse de toute portée axiologique. Je veux dire par là, il va s'agir de comprendre comment nous sommes devenus ce que nous sommes, de décrire objectivement l'histoire de ce qui nous permet de nous reconnaître, mais de telle sorte que cette compréhension ne vaille absolument pas assomption ou revendication de ces éléments, du contenu normatif de ces éléments. Foucault le disait très bien, beaucoup plus tôt, dans une interview avec Pierre Dumayet, à la télévision, il disait « J'aurais voulu que nous puissions considérer notre propre culture comme quelque chose d'aussi étranger à nous-mêmes que la culture, par exemple, des Arapesh ou des Nambikwara, ou comme la culture chinoise. » Il s'agit, en bref, de faire l'histoire qui nous permet de nous reconnaître sans que cette reconnaissance vaille assomption, vaille identification normative, vaille revendication d'identité, si vous voulez, parce qu'elle est tenue en quelque sorte strictement à l'extérieur du soi. Il s'agit en fait d'une histoire du présent qui ne confère au présent aucune légitimité particulière. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, sur l'autre bord, Foucault va associer les deux autres éléments. Il va dire, voilà, qu'est-ce que l'Aufklärung ? C'est ce moment de la pensée qui donne une valeur au récent, en tant qu'il est récent. L'interprétation que Foucault propose de Kant, c'est-à-dire, voilà, ce que Kant découvre, c'est une inquiétude vis-à-vis du présent qui n'est plus l'inquiétude vis-à-vis d'un âge du monde, ou du signe d'un événement prochain, ou d'une étape, ou d'un point de transition, mais comme une pure sortie, comme une pure issue. Autrement dit, ce qui vaut, c'est le présent, c'est le récent, en tant qu'il est récent. Ce qui doit nous inquiéter, ce qui doit nous préoccuper, ce qui doit nous mobiliser, c'est la compréhension de ce qui en nous est récent. La modernité, Foucault donne, si vous voulez, une autonomie à l'expérience du présent comme pure actualité, coupée de son arrière-plan chronologique et objectif. On aurait ainsi, et c'est le programme qui est tracé dans le « Qu'est-ce que les Lumières » de 1983, d'un côté, la modernité comme expérience de l'actualité, la modernité comme injonction à nous saisir de notre actualité, de l'autre côté, la modernité comme séquence historique dont il s'agit de reconnaître en quel sens elle façonne notre être objectif. Je crois que la distribution des choses s'opère de cette façon chez le Foucault de 1983. Ce n'est pas la première, je n'ai pas le temps de le développer, mais cette division-là, cette division entre une histoire objective de ce qui nous, ce qui nous a fait et une assomption de notre pure actualité en tant qu'elle nous sépare de nous-mêmes, en tant qu'elle nous porte ailleurs et autrement, cette histoire-là est chez Foucault une vieille histoire. Je conclue. Je ne voudrais pas être trop long, je prends 5 minutes. On a donc chez Foucault, vis-à-vis de la découpe de la modernité, l'articulation entre deux gestes. D'un côté, une critique de l'exigence moderne, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, qui va séquencer autrement l'histoire, reconduire l'essentiel vers le récent, jusqu'à produire une actualité méconnaissable. Ça, c'est le programme de l'archéologie du savoir. D'un autre côté, une relance de l'exigence moderne, ramenée à son noyau présentiel ou actuel, comme un appel à ressaisir, à modifier notre actualité, en reconnaissant les déterminations historiques qui nous ont amenés à être ce que nous sommes. Le risque, à découper les choses ainsi, évidemment, c'est sont au fond toujours les deux tentations entre lesquelles Foucault a navigué. D'une part, un pur historicisme, c'est-à-dire, au fond, on va se contenter de décrire des transformations, des modifications, etc., dans l'histoire, sans début ni fin et sans signification particulière. D'autre part, quelque chose comme un existentialisme, lorsque Foucault en appelle à la différence pure du présent, lorsqu'il appelle à relancer avec cette différence le pur travail de la liberté, on n'est pas absolument loin de Sartre. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est la façon dont Foucault navigue entre, disons, la modernité, l'archéologie comme tableau des transformations et des discontinuités historiques, et l'archéologie comme tâche de se déprendre de soi-même. Je voudrais simplement mentionner que entre ces deux pôles, vont apparaître un certain nombre de points névralgiques. Il est assez logique, si Foucault est commis à naviguer entre, d'un côté, une description en extériorité de l'histoire, de l'autre, une reprise de l'attitude de modernité, qu'un certain nombre d'éléments oscillent entre les deux bords de ce travail historien. Par exemple, les grands événements. Foucault ne cesse jamais, d'une part, de défaire, de dégonfler, en quelque sorte, les grands événements, d'autre part, de tourner autour. Je vous renvoie au beau texte de Roger Chartier sur Foucault et les historiens, où Roger Chartier commente ce qu'il en est de la Révolution française. Roger Chartier remarque que d'un côté, la Révolution française est ce par quoi Foucault ne passe jamais, d'un autre côté, il est ce autour de quoi il ne cesse de tourner. Il ne passe pas par la Révolution française parce qu'il s'agit d'en défaire le statut de borne dans une histoire de la modernité, mais il ne cesse de tourner autour parce que la Révolution française est par ailleurs l'un des moments privilégiés où s'exprime, où s'annonce, où se manifeste cette attitude de modernité qu'il revendique pour lui-même. Le rapport aux grands événements, aux événements qui font bascule, est donc chez Foucault constitutivement ambigu. De la même manière, le rapport à un certain nombre de personnages, de figures historiques, est lui aussi extrêmement ambigu. Derrida en a donné, je crois, la formule définitive en mettant en exergue ce mot de Foucault qui dit « il faut être juste avec Freud ». Il faut être juste avec Freud, cela veut dire qu'il faut d'une part lui assigner sa place dans une histoire archéologique où il n'est après tout qu'un épisode parmi d'autres. Mais cela veut dire encore, pour effectuer cela, il faut d'une certaine façon se tenir juste à côté de lui, c'est-à-dire lui emprunter une partie de ses concepts et de ses opérations, donc ne pas le considérer simplement comme un objet, mais peut-être tout autant comme un allié ou comme, en tout cas, un interlocuteur privilégié. Un certain nombre de figures chez Foucault, il y a Freud, il y a le marquis de Sade, il y a des figures anonymes ou infâmes, les hommes infâmes, il y a un certain nombre de figures comme ça, dont on ne sait jamais si elles sont les objets pour une modernité redécoupée, les objets incidents d'une modernité qu'il s'agit de scander autrement, ou les interlocuteurs avec lesquels cette redéfinition, cette redistribution du moderne va pouvoir s'opérer. Je terminerai simplement en disant que personnages vis-à-vis desquels, et pour revenir au fond de cette modernité 19e à la modernité qui nous intéresse ici, effectivement, l'un des personnages par lesquels, à mon sens, Foucault a manqué de passer, c'est Machiavel, parce que Machiavel, vis-à-vis duquel Foucault a une attitude assez ambiguë, assez éloignée en réalité, c'est-à-dire il se méfie, il commente essentiellement la littérature anti-machiavélienne davantage que Machiavel lui-même. Machiavel serait typiquement une figure, l'une de ces figures pivots par lesquelles il est possible de périodiser autrement le moderne, et avec lesquels, auxquels il serait possible en même temps de donner un rôle ou une place différent. Voilà les quelques indications que je voulais vous donner. Je vais maintenant passer la parole, sans plus attendre, à un véritable historien, puisqu'il s'agit de Stéphane Van Damme, professeur à l'Institut universitaire européen, et qui a récemment coordonné le premier tome de l'histoire des sciences, la monumentale histoire des sciences et des savoirs, sous la direction de Dominique Prestre, publié aux éditions du Seuil. Merci.